Donc on reprend dans le prolongement des discussions que nous venons d'avoir à partir de différentes enquêtes qui ont été menées. On va entendre maintenant un exposé de Christelle Hamel. Christelle Hamel, qui est chercheure à l'INED, à la fois sociologue et anthropologue, qui a publié un certain nombre d'articles, en particulier un article très utile sur les débats concernant les tournantes et sur l'articulation entre ces débats et des enquêtes sur les pratiques, un article qui avait paru dans Gradiva il y a 3 ans. Et d'autre part, elle a un livre qui va sortir cette année, La Découverte, dont le titre n'est pas encore définitif, mais dont elle va nous donner des clés de lecture dès à présent, puisque les questions qu'elle y pose touchent effectivement à l'articulation entre sexualité, sexisme, racisme. Autrement dit, il s'agit de relations amoureuses sous contraintes diverses. Donc je lui donne la parole.
Bien, merci à Éric Fassin et à Elsa Dorlin de m'avoir invité pour cette intervention. Je vais effectivement vous parler de l'intersection des rapports sociaux sexistes et racistes et de leur effet sur la sexualité, en partant de l'expérience de jeunes femmes issues de l'immigration maghrébine et en vous exposant comment elles se situent par rapport à la norme de la virginité. Alors, les données que je vais vous présenter sont issues d'une recherche que j'ai menée pour mon doctorat en anthropologie qui portait sur la sexualité et les relations amoureuses des jeunes d'origine maghrébine âgés de 18 à 25 ans. Et l'objectif de cette recherche visait à étudier les attitudes face au risque d'infection par le VIH. Donc l'entrée de cette étude était une entrée VIH-SIDA, mais bien sûr ça m'a amené à explorer tous les aspects de l'expérience de jeunesse de ces jeunes garçons et de ces jeunes filles. J'ai donc réalisé 69 entretiens, c'était donc une enquête qualitative, et au cours de cette recherche, j'ai été particulièrement surprise de voir à quel point les jeunes femmes, les jeunes garçons, mais aussi les parents des jeunes personnes que j'avais interrogées étaient attachés au principe de virginité. En effet, pour moi, le principe de virginité représentait une norme relativement désuète. Il faut dire qu'elle est devenue assez minoritaire en France. Et elle représentait aussi un symbole du contrôle social de la sexualité des femmes et un mode d'expression de la domination masculine. À ce titre, j'étais finalement surprise que certaines des jeunes femmes interrogées la revendiquent et la revendiquent comme un choix. En effet, la moitié des 23 jeunes femmes interrogées revendiquaient cette pratique et les autres qui avaient transgressé cette norme exprimaient toute la difficulté qu'elles avaient eue à franchir ce pas, tandis que certaines d'entre elles regrettaient également d'avoir transgressé cette norme sexuelle. Dans le même temps, pour vous donner quand même quelques chiffres et situer l'importance aussi de cette pratique de la virginité, un rappel statistique, l'enquête sur l'entrée des jeunes dont Brigitte, sur l'entrée dans la sexualité des jeunes dont Brigitte Lomont parlait tout à l'heure, montrait effectivement en 1994 qu'à l'âge de 18 ans, 45% des jeunes filles, dont l'un des parents était originaire du Maghreb, avaient eu un rapport sexuel avec pénétration, contre 70% des filles de parents français. Donc l'écart est extrêmement fort, 45% d'un côté ont eu une expérience sexuelle avec pénétration, 70% de l'autre à l'âge de 18 ans. Donc on voit que cette attention accordée au principe de virginité est un phénomène qui se traduit statistiquement d'une manière très forte. Alors comment comprendre cette revendication du principe de virginité et la permanence de cette pratique alors que les parents vivent en France depuis maintenant 20 à 30 ans et que cette norme n'est plus valorisée dans l'ensemble de la société française? Avant de vous livrer les discours des jeunes femmes que j'ai interrogées et vous expliquer comment elle se positionne. En fait, je vais d'abord commencer par situer le contexte social dans lequel émerge ce discours, en prenant en considération un phénomène particulier auquel elles sont exposées, ainsi que leur famille, à savoir l'expérience du racisme. En effet, c'est au regard de cette expérience que l'on peut comprendre en partie la permanence de cette pratique. Et par ailleurs, la formulation par laquelle elle revendique et légitime la pratique de la virginité étant parfois un petit peu brutale, cette brutalité ne pourrait pas être comprise si on ne la mettait pas en regard de cette expérience du racisme. C'est donc pour cette raison que je vais d'abord vous donner quelques indications sur l'ampleur du phénomène du racisme, à la fois dans sa manifestation en termes de discrimination à l'égard de l'emploi et par ailleurs en termes de stigmatisation et de représentation sur les hommes et les femmes issus de l'immigration. Effectivement, les femmes et les hommes issus de familles maghrébines ont pour caractéristiques communes d'être toutes et tous exposés aux discriminations raciales. Le racisme, loin de se limiter à un discours de l'inégalité des races, consiste d'abord et avant tout en un ensemble de pratiques discriminatoires, directes et indirectes, dans l'accès au travail, au logement, aux loisirs et à la représentation politique. Le taux de chômage des immigrés, toutes origines confondues, s'élevait en 2002 à 16,4%, soit le double de celui des personnes non immigrées. De plus, celui des personnes immigrées venues d'Algérie et du Maroc, âgées de 25 à 59 ans, était de 25%, donc le plus fort parmi les personnes immigrées. Enfin, à diplôme comparable, le taux de chômage des jeunes de 19 à 29 ans, dont les parents sont originaires d'Algérie ou du Maroc, avoisinait 40% contre 20% pour les enfants de parents non immigrés, donc le double. On voit là à quel point le racisme, en termes de discrimination, constitue un système social structurellement très ancré et très organisateur de la société française. Le racisme se manifeste encore par la stigmatisation des pratiques, des valeurs, des normes qui sont attribuées à tort ou à raison à cette population et participent à la généralisation d'attitudes méfiantes qui produisent et légitiment ces discriminations. C'est donc en ayant la connaissance intime de ces inégalités en termes d'accès à l'emploi et en ayant une connaissance intime de cette stigmatisation que les jeunes femmes se sont exprimées. Pour comprendre plus précisément l'impact de la stigmatisation, il faut prendre en considération les mécanismes par lesquels elle se construit pour saisir l'influence que cette stigmatisation peut avoir sur l'élaboration des normes sexuelles et sur les rapports entre hommes et femmes. De fait, depuis quelques années, on assiste effectivement en France à une forme de stigmatisation des populations issues de l'immigration qui s'appuie sur la dénonciation des violences envers les femmes et des relations sexistes entre les hommes et les femmes dans les populations immigrées. Cette stigmatisation a commencé à s'amplifier à partir de la diffusion du film La Squale à la fin de l'année 2000 et s'est prolongée jusqu'en septembre 2003. Pendant toute cette période, la production médiatique et politique de discours sur les violences sexistes dans les banlieues a été très intense. Ces discours laissaient entendre que les relations entre les sexes dans cette population auraient acquis un degré de violence inégalé jusqu'alors. Les hommes dits arabes ou musulmans furent présentés comme des individus particulièrement sexistes et leurs épouses ou leurs filles comme les victimes tantôt soumises ou rebelles de pratiques archaïques. La dénonciation des violences sexistes dans les banlieues est effectivement légitime, mais on peut s'inquiéter de constater que la manière dont on se représente les relations entre les sexes dans les populations issues de l'immigration tend à se réduire à cet axe des violences sexistes. À mon avis, on peut observer trois processus dans la manière dont se construit cette figure de l'homme arabe ou musulman comme homme plus sexiste que le reste des hommes de la population. Le premier processus consiste en la mise en exergue de certaines violences dont la caractéristique n'est d'exister que dans cette partie de la population. Le port contraint du voile, les mariages forcés, les crimes d'honneur, l'excision provoquent des emballements médiatiques qui donnent à voir la violence sexiste comme une production, voire une importation étrangère. Dans le même temps, les femmes du groupe majoritaire, n'étant pas contraintes à ce type de pression sexiste ou de violence, apparaissent par le biais de la comparaison, mais d'une comparaison qui est en quelque sorte tronquée, comme non exposées aux violences sexistes. La focalisation sur ces pratiques différenciatrices a pour effet d'interdire la comparaison et donc de construire une frontière de type « nous-eux » qui assimile les groupes minoritaires à la violence sexiste et semble épargner le groupe majoritaire de l'existence de ces violences. Le deuxième processus consiste en l'amplification médiatique qui est en quelque sorte une forme de surestimation numérique de ces violences. Le phénomène des viols collectifs est un exemple qui illustre ce processus. En effet, pendant toute cette période de médiatisation, on a considéré le viol collectif, qu'on a appelé à l'époque tournante, comme un phénomène nouveau et en expansion. Or, pour dire que ce phénomène était nouveau et en expansion, il aurait fallu pouvoir disposer de données quantitatives pour le démontrer, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avions pas d'éléments permettant de le signifier. Ou plutôt, on avait des éléments qui permettaient de nuancer considérablement ce type d'information. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ces données quantitatives n'ont en fait que très peu été médiatisées et utilisées. Les résultats de l'enquête sur les violences envers les femmes en France révélaient en effet en 2001 que près de 45 000 femmes sont victimes de viols par an en France et que les femmes victimes de viols collectifs n'étaient que 6% parmi l'ensemble de ces femmes. Le viol collectif est donc un phénomène statistiquement minoritaire qui constituait en fait en quelque sorte la forêt qui masquait le phénomène du viol dans son ensemble. Il y avait donc là une représentation médiatique de la figure du viol et plus précisément de la figure du violeur qui était tout à fait disproportionnée et inadéquate en comparaison des données scientifiques dont nous disposions. C'est donc construit progressivement la figure du garçon arabe ou du garçon issu de l'immigration comme nouvelle figure du violeur. Et là, je vous renvoie aux travaux de Nassira Guenif et également Laurent Mukili. Le troisième processus qui opère cette stigmatisation et cette construction de l'homme arabe comme l'homme violent consiste à appréhender ces violences pour ce qu'elles ont d'exotique. En effet, par exemple, peut-être que vous vous souvenez en 1994 de cette affaire de crime d'honneur qui avait été commis contre une jeune femme dans une famille turque. Cette jeune femme avait été assassinée par son frère. Les journalistes s'en étaient fait très largement l'écho. Et cette affaire avait été présentée comme le résultat de la culture archaïque et barbare de cette famille qui avait été accusée de vouloir contraindre cette jeune femme à un mariage contre sa volonté et de la contrainte également à porter le voile. La sociologue Annie Kermet, en 97, a fait une enquête pour reprendre cette affaire et révéler au terme de son investigation qu'en fait il s'agissait non pas d'une affaire de crime d'honneur dans cette histoire. Cette jeune femme n'avait aucunement été contrainte à un mariage. Ses parents avaient des très bonnes relations avec elle. Ils ne souhaitaient pas du tout la contraindre à porter le voile, mais elle avait révélé des faits d'inceste commis par son frère sur elle. Et celui-ci, à la suite de la révélation de cette violence, avait donc tué sa sœur. Il s'agissait donc d'une banale, si je puis dire, affaire d'inceste, et sa représentation médiatique avait été transformée en phénomène culturel. Donc, à travers cette médiatisation et représentation des violences dans les groupes minoritaires issus de l'immigration, on observe qu'il s'opère en quelque sorte deux poids, deux mesures, selon que ces violences sont commises par des hommes des minorités ou par des hommes du groupe majoritaire. Ainsi, le sexisme serait la représentation et la caractéristique de la culture arabe ou musulmane, alors que dans le même temps, les violences que l'on observe dans l'ensemble de la société française ne sont pas présentées comme le produit de la culture française. D'un côté, la culture d'un groupe est mise en cause, alors que de l'autre, elle est épargnée et la violence est plutôt considérée comme un phénomène relevant de l'exceptionnalité d'individus particuliers. Ce type de discours a des effets paradoxaux et produit un système de contraintes sur les jeunes femmes issues de l'immigration. En effet, ces discours contiennent des discours des messages implicites à l'endroit de ces jeunes femmes. Étant donné que ces hommes qui sont leurs proches sont considérés comme plus violents et plus sexistes que les autres, il paraît de ce fait assez logique que l'on attende de ces jeunes femmes qu'elles s'émancipent et qu'elles rompent des liens avec cette culture et ces familles qui semblent être oppressives et particulièrement patriarcales. L'émancipation à laquelle ces jeunes femmes sont invitées et implicitement conviées connote également une émancipation sexuelle, puisque la virginité est désormais reconnue par la majorité de la population française comme une norme symbolisant l'inégalité des sexes. Plus encore, s'émanciper contient un autre message. Les filles sont invitées à construire leur vie affective et sexuelle avec des hommes du groupe majoritaire censés être plus modernes et moins sexistes. Il s'ensuit que la volonté de certaines jeunes femmes de transgresser le principe de virginité et éventuellement de construire leur vie de couple avec un homme du groupe majoritaire peut être interprétée par leur famille ou par les hommes du groupe minoritaire, qui est le leur, comme une manière de valider ces discours qui présentent les hommes issus de l'immigration comme moins désirables que les hommes non issus de l'immigration. De ce fait, elles peuvent apparaître au regard de leurs proches comme des traîtresses potentielles. Et il s'agit là d'une situation particulièrement difficile à gérer pour elles, qui a un impact tout à fait important pour comprendre la manière dont elles se positionnent par rapport au principe de virginité. J'en viens donc à la manière dont elles présentent et légitiment leur choix de respecter ce principe de virginité. Les 13 jeunes femmes que j'ai interrogées, qui revendiquaient le principe de virginité, ont pour caractéristique d'avoir un discours à ce propos tout à fait contradictoire et paradoxal, qui renvoie à deux analyses qu'elles opèrent de ce qu'est le principe de virginité. D'une part, elles le voient effectivement comme quelque chose qui relève de l'inégalité des sexes. D'autre part, c'est néanmoins un choix personnel. Donc, elles présentent dans leur discours deux formes d'argumentation. D'une part, elles légitiment et présentent cette pratique, comme un choix. D'autre part, elles le présentent comme le résultat de contraintes et d'interdits imposés par leurs parents. En présentant la virginité comme un choix personnel, elle tente en fait de contrer l'image de fille soumise qui s'impose à elle, en même temps qu'elle tente de contrer l'image de parents barbares qui s'imposent à leurs parents. Par exemple, Yatmina, 21 ans, étudiante en DEUG, me raconte avec amertume s'être entendue dire par ses parents, par ses camarades de classe, « De toute façon, vous, vos parents, ils vous vendent comme des chameaux. » Puis elle me déclare, « Il y en a, franchement, ils nous prennent pour des bêtes. » Plus loin, dans l'entretien, elle insiste sur son adhésion personnelle à la virginité. « Mais ce n'est pas nos parents qui nous forcent, dit-elle. Il ne faut pas croire, c'est nous qui le voulons. Ils ne nous obligent à rien, nos parents. Et puis, eux aussi, ils ont été jeunes. Alors, ils savent ce que c'est d'être jeunes. » Il apparaît clairement que ces jeunes femmes tentent de s'opposer à la déshumanisation de leurs parents qu'impliquent les discours racistes et que la revendication de la virginité comme le fruit d'une décision personnelle s'inscrit dans ce mouvement. Elles refusent l'assignation à la honte de leur famille, à la honte de leur culture et à la honte d'elles-mêmes. Elles disent qu'elles pourraient avoir des rapports sexuels si elles le voulaient et que les contraintes qui s'imposent à elles, l'interdiction des sorties ou la surveillance de leur fréquentation, n'est pas suffisante pour leur interdire véritablement d'avoir des rapports sexuels. Elles justifient également leurs revendications en posant un regard critique sur le modèle occidental de sexualité. Elles soulignent que la liberté sexuelle dont bénéficient les Françaises n'implique pas forcément que les garçons les respectent. À l'inverse des filles françaises, elles disent parvenir à se faire respecter grâce au principe de virginité qui leur permettrait d'évaluer les intentions des garçons. En cela, elles égratignent le discours faisant de la liberté sexuelle des femmes le signe de la modernité française et de la virginité celui du traditionnalisme arriéré des familles maghrébines. Ainsi, Aïcha, 20 ans, en DEUG d'espagnol, témoigne de l'attitude hautaine des filles françaises qui la dénigraient parce qu'elles ne pouvaient pas sortir en discothèque. Et elle dit « Franchement, elles font leur fière devant toi parce qu'elles savent que tu ne peux pas sortir. Mais moi, je ne vois pas quelle fierté il y a à se faire prendre dans une voiture ou dans les chiottes d'une boîte. Je ne vois pas quelle fierté il y a à se faire avorter. La virginité, il y a des contraintes, c'est vrai, mais tu te fais respecter. Elles, c'est des filles faciles. Alors je suis désolée, la fierté, je ne la vois pas. Vraiment pas. » En somme, en défendant le principe de virginité, elles cherchent à transformer leur identité arabe stigmatisée en identité positive. L'exaspération qu'elles peuvent ressentir peut même parfois évoluer en une forme de contre-racisme dans la mesure où toutes les jeunes femmes françaises sont dès lors considérées comme des filles faciles. L'une d'elles me dit ainsi « Mais je ne voudrais pas être une Française, je suis fière d'être une arabe. Je suis fière parce que les Françaises, en général, c'est des filles faciles. » On voit ici que la résistance au racisme contribue à faire adhérer certaines de ces jeunes femmes au principe de virginité et parfois à le défendre farouchement, quand bien même elles doivent en payer le prix par le renoncement à une partie de leur liberté sexuelle. Cet abandon d'une partie de leur liberté est néanmoins contrebalancé par l'espoir et la concrétisation de pouvoir faire leurs études comme elles l'entendent en gagnant la confiance de leurs parents. Dans le même temps, ces jeunes femmes décrivent donc aussi les contraintes, les interdits et le contrôle social que leur imposent leurs parents. La série des interdictions qu'elles décrivent est la suivante. Pour chacune d'entre elles, l'interdiction de sortir en discothèque, pour d'autres, quelques-unes, les sorties au cinéma, la piscine, parfois les voyages scolaires, dormir chez une amie, pratiquer un sport, aller dans les cafés, consommer de l'alcool, voyager seule, habiter seule dans une autre ville et parfois l'empêchement de ce fait de pouvoir poursuivre des études universitaires. Elles critiquent le fait qu'aucun de leurs frères ne s'est vu refuser l'une ou l'autre de ces activités. Ils étaient plutôt encouragés à user de leur liberté. Elles critiquent également l'attachement trop prononcé de leurs parents à leur avis, au regard que les autres familles pouvaient bien porter sur leur réputation. Elles déclarent dans le même temps comprendre l'attachement que leurs parents accordent au principe de virginité compte tenu de ce qu'ils ont enduré en arrivant en France. Elles tiennent donc à décrire l'arrivée de leurs parents dans des foyers Sonacotra, dans des bidonvilles, leur cloisonnement dans des quartiers HLM dégradés, la ségrégation sociale, leur exploitation dans les entreprises et le racisme au quotidien. Tout en disant qu'elles contestent cette inégalité de traitement entre elles et leurs parents, elles se montrent compréhensives à l'égard de l'attitude de leurs parents et du fait qu'ils n'ont pas adopté les valeurs dominantes de la société française compte tenu du relatif rejet, ou plutôt du rejet important qu'ils ont subi en provenance de cette société. Ainsi, il ressort que pour ces jeunes femmes, revendiquer le principe de virginité est un moyen de gagner la confiance de leurs parents en montrant à ces derniers qu'elles adhèrent aux valeurs qui sont les leurs et qu'elles ne cherchent pas à se franciser. On peut dire en quelque sorte que le principe de virginité est un signe de loyauté qu'elles adressent à leurs parents, un signe qui consiste à leur faire comprendre qu'elles n'adhèrent pas aux discours qui les présentent comme des barbares et des hommes particulièrement sexistes au regard du reste de la population, mais qu'au contraire, de cette manière, à la fois elles réinvestissent le principe de virginité d'une forme de négociation dans les relations entre les sexes et comme une forme de négociation des relations entre générations. Pour conclure, je dirais que l'imbrication des rapports sociaux sexistes et racistes contribue à conférer au principe de virginité dans le contexte migratoire des significations qui certainement sont très différentes de celles qu'on peut observer dans les pays d'origine. Et en tout cas, elle place la sexualité des jeunes femmes issues de l'immigration au sein de rapports sociaux particulièrement complexes qui font pour elles, qui réduisent pour elles les marges de manœuvre pour construire par elles-mêmes leur propre désir sexuel et leur propre émancipation. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Christelle Hamel. Donc, nous allons reprendre la même méthode que pour les séances précédentes, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs questions. Je vous rappelle que l'ensemble de ces débats sont enregistrés et seront ensuite disponibles en ligne. Et on vous demande de vous nommer lorsque vous prenez la parole, si vous voulez bien. Donc, on prendra plusieurs questions. Une première.
Michel Bozon, j'ai une question à savoir. Je voudrais savoir quelque chose sur l'enrobage et sur le processus d'entrée dans la sexualité lui-même, hein, si on le prend comme un processus. Dans les pays latins et méditerranéens qui valorisent un peu de la même manière la virginité, ou qui valorisait, puisque ces choses-là changent très très vite, hein, ce ne sont pas c'est bien le racisme qui maintient en place certains comportements qui en réalité peuvent changer très très vite, hein, même en termes de valeurs. Il y a toujours eu la tradition d'une phase de sexualité prégénitale extrêmement active, hein, c'est-à-dire où on ne pouvait pas avoir une pénétration vaginale, mais on pouvait faire beaucoup de choses avant, une très grande activité sexuelle, d'une certaine manière, une sexualité assez chaude, alors même que la pénétration était interdite. Alors, est-ce qu'on voit des traces de ça dans l'échantillon que tu as étudié ?
D'autres questions ?
À la fin, je suis Florence Morino. À la fin, vous parlez de la réduction de la marge pour construire leur propre désir sexuel. C'est la première fois où vous employez le mot désir. Qu'en est-il du désir de ces jeunes femmes? Est-ce qu'elles expriment un désir qu'elles réfrènent, ou est-ce qu'elles se situent encore bien en amont, qu'elles n'osent pas encore même employer, concevoir qu'elles puissent désirer, mais ne pas passer à l'acte?
La question suivante est également au premier rang, mais il n'est pas indispensable d'être au premier rang pour poser une question. Parce que les micros se promènent. Donc après, je crois qu'il y a une question. pardon, mais il y a aussi dans le fond.
Marie-Elisabeth Rodman. Je voulais te demander, compte tenu des chiffres du chômage que tu nous as donnés, compte tenu aussi du fait que ces filles, même si elles sont attachées à la virginité, ne sont pas pour autant décidées à rester vierges toute leur vie, et donc souhaitent se marier, est-ce que dans leur choix affectif, le fait que ce que tu appellerais quelqu'un qui appartient à la société majoritaire n'apparaît pas comme un meilleur parti? Parce que plus vite dans le monde du travail, à supposer que, oui, puisqu'elles font des études, elles rencontrent quand même des gens qui ne sont pas des habitants des quartiers dans lesquels le taux de chômage est le double ou le triple du reste de la population. Donc est-ce que dans leur choix, et ça rejoint un peu la question du désir aussi, cet aspect... économique et de sécurisation de la vie à venir n'entre pas en ligne de compte, et puis le fait aussi que après tout elles peuvent par le biais de la virginité renforcer l'image qu'elles veulent donner de leur groupe d'origine, mais elles sont pas elles nécessairement racistes pour autant, et peut-être donc aussi attirées par des Français.
Est-ce qu'on peut prendre peut-être la question du fond, juste pour montrer qu'il y a une vie au-delà du premier rang ? Symboliquement, ça a des effets.
Je voulais savoir... je m'appelle Tapas Pat, je suis étudiante à Paris 8 en doctorat, dans le département études féminines. La jeune génération entre 18 et 25 ans... d'origine maghrébine, elles sont de quelle génération ? Quatrième, ou deuxième, ou troisième ? Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas, un enfant maghrébine, si elle est en quatrième ou cinquième génération, forcément il y a une évolution dans la mentalité des jeunes maghrébines en France, et peut-être que les attitudes auraient évolué. Donc votre analyse spécifique, est-ce qu'elle est portée sur une génération type spécifique ?
Peut-être qu'on procède déjà avec cette première tournée de questions, oui. Et puis il y en aura une deuxième.
Alors la première question de Michel Bozon sur l'enrobage de cette entrée dans la sexualité. Effectivement, une partie de ces jeunes femmes avaient des relations amoureuses stables, avec un compagnon qu'elles envisageaient plutôt comme un futur époux, en tout cas comme un époux potentiel, même si elles estimaient encore être un peu trop jeunes pour se marier, c'était pour elles des relations qu'elles qualifiaient de sérieuses, et parfois avec une très longue durée. L'une d'elles était en couple avec un compagnon depuis 3 ans. Et évidemment, en 3 années, on ne peut pas dire qu'il s'était absolument rien passé entre eux. Il y avait eu des caresses, donc une sexualité non pénétrative, et qui n'était pas, enfin qui apparaissait comme quelque chose de normal, et qui n'apparaissait pas comme une entrave, enfin une transgression du principe de virginité. Les filles étaient plutôt discrètes quand même sur ce type de pratique. C'est celles qui étaient dans des relations très longues qui ont reconnu avoir ce type de pratique, parce que là, sans doute, il leur paraissait que j'allais peut-être pas tout à fait croire qu'il ne s'était rien passé entre elles et leurs compagnons, alors que ça faisait tant de temps qu'ils étaient ensemble. Pour ce qui est de... Pardon ? Les garçons ont aussi donné quelques éléments d'information sur la sexualité avant le mariage. Et on parlait de la pratique de la sodomie comme substitut à la pratique de la pénétration vaginale. Les filles n'ont rien dit à ce propos, mais de ce que disaient les garçons, en tout cas certains, il semblait que ce type de pratique ne soit pas franchement le fait d'une demande des filles, mais plutôt de la pression exercée par les compagnons, par les petites amies, que par les filles elles-mêmes. Donc, ce qu'on entend par virginité, sans doute, est à comprendre... enfin, c'est relatif, la virginité, dans un certain sens. D'ailleurs, un garçon le disait d'une manière assez crue, en me disant, de toute façon, les filles vierges à 100%, maintenant, ça se fait rare. Donc, ça voulait dire que, lui, il avait une vision de la virginité comme vraiment n'avoir rien fait, ni embrassé, ni touché, ni caressé, ni rien du tout. Et que ça, effectivement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Pour ce qui est la deuxième question de Florence Moreno, je crois, voilà, du désir sexuel des filles. Effectivement, j'aurais tendance à penser qu'une partie d'entre elles, en tout cas, avait vraiment beaucoup de difficultés à penser leur propre désir et à construire leur désir sexuel par elles-mêmes. Surtout, enfin, ce qui me faisait penser ça, c'est qu'elles envisageaient, par exemple, le mariage comme quelque chose de beau, de normal, un moment où s'exprime l'honneur individuel des personnes qui vont être mariées, mais aussi l'honneur des familles, la respectabilité, une fête, un grand amour, etc. Quand il était question de parler, par exemple, de leur désir d'enfant, elles pouvaient tout à fait dire dans l'entretien, ah ben moi je veux pas d'enfant au début de mon mariage, et néanmoins elles étaient dans l'incapacité de faire des démarches nécessaires pour avoir un moyen de contraception au jour de leur mariage. Et donc on sentait qu'il y avait quelque chose d'un petit peu passif dans leur sexualité, à la fois le désir de se marier, ça c'était évident, mais en même temps quelque chose qui ne relevait pas complètement de leur propre maîtrise. Celles qui ont transgressé le principe de virginité étaient sans doute plus... exprimaient ça beaucoup plus que les autres, en disant, le jour où j'ai transgressé le principe de virginité, je me suis réapproprié mon propre corps, j'ai pris conscience que la sexualité, c'était quand je le voulais, quand je le décidais, et que c'était pas mes parents qui m'autorisait à avoir une sexualité le jour où je me mariais. Le discours de celles qui ont transgressé le principe de virginité permet de regarder le discours de celles qui ne l'ont pas transgressé d'une manière un peu différente. Cela dit, je distinguerai quand même celles qui ont eu des pratiques sexuelles non pénétratives avant le mariage et celles qui n'en ont pas eu. Il me semble que là, on peut sans doute pas évaluer de la même façon leur pratique et leur manière d'envisager le principe de virginité. Pour ce qui est du choix du conjoint, la question de Marie-Elisabeth Handmann et les aspects économiques dans ce choix... les données statistiques de l'enquête mobilité géographique et insertion sociale qui a été réalisée en 1993 à l'INED par Michel Tribala montraient que, si je ne me trompe pas, mes souvenirs sont un petit peu vagues, que les enfants de parents algériens, donc âgés de 19 à 29 ans, pour les garçons, étaient 50% à vivre en couple mixte, contre 28%, je crois, des filles. Donc, la possibilité d'entrer dans un couple mixte est plus facile pour les garçons que pour les filles. C'est-à-dire que le contrôle social du choix du conjoint est quand même beaucoup moins fort pour les garçons qu'il ne l'est pour les filles. Et je pense que tout ce que j'ai expliqué là sur la question du racisme explique en partie ce choix... cette moindre ouverture des choix possibles pour les filles en ce qui concerne le choix du conjoint. Pour ce qui est de l'intérêt économique qu'il pourrait y avoir derrière ça, je ne saurais pas trop quoi en dire, à vrai dire. Mais il est sûr que les jeunes gens issus de l'immigration maghrébine, les garçons, se trouvent relativement déclassés sur le marché matrimonial. Dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, exclus du marché de l'emploi, ça a des implications sur la construction de la vie familiale et affective. Ça veut dire que la possibilité de s'autonomiser par rapport aux parents, d'avoir un logement indépendant, de pouvoir construire une famille véritablement, est hypothéquée, repoussée dans le temps, et qu'en conséquence, peut-être il représente un parti moins intéressant. Mais pour autant, le choix de vivre avec un compagnon non issu de l'immigration pour ces jeunes femmes implique des risques de rupture familiale qui peuvent avoir un coût affectif pour elles, évidemment très difficile à supporter. Et je pense que ça a plus, c'est un déterminant plus fort que les aspects éventuellement économiques. Et la question qui était posée dans le fond, les jeunes femmes que j'ai interrogées étaient nées en France et leurs parents étaient migrants. Donc c'est la première génération de personnes nées en France de parents immigrés. Et peut-être la caractéristique quand même globale de ces jeunes femmes, c'est qu'elles étaient les cadettes de leur famille, plutôt. Leurs aînés avaient déjà fait l'expérience aussi, bousculé pas mal de choses pour ce qui concerne les relations entre garçons et filles, le droit de sortir, etc. Mais donc, beaucoup d'entre elles avaient vu leurs grandes sœurs entrer dans des conflits très forts avec leurs parents à propos des sorties, à propos du choix du conjoint, être dans des situations de rupture familiale parce qu'elles avaient souhaité imposer plus de liberté d'autonomie. Et elle faisait le constat que finalement, leur sœur aînée s'était retrouvée en situation très, très difficile, en situation de précarité, en situation de rupture affective avec leurs parents. Donc quand on a 18 ans et qu'on part de chez soi, ça veut dire souvent se retrouver dans une grande précarité, ne pas avoir de logement. Donc ses grandes sœurs avaient fait parfois l'expérience de devenir sans domicile, d'être sans ressources, d'interrompre leurs études. Et face aux discriminations raciales et une qualification relativement faible du fait de l'interruption des études, elles s'étaient retrouvées dans des situations économiques assez graves. En conclusion, du coup, ces jeunes femmes se disaient qu'il valait mieux négocier avec leurs parents, être dans les compromis, ne pas être dans l'affrontement brutal et la confrontation plutôt que d'être dans la rupture familiale parce que, par ailleurs, la société française qui les appelle à s'émanciper ne fait pas grand-chose pour que cette émancipation puisse être effective. Il faudrait pour ça que la lutte contre les discriminations raciales et les possibilités d'autonomisation de ces jeunes femmes soient un peu plus grandes. Or, on ne peut pas dire qu'elles aient les mêmes possibilités d'émancipation que les autres jeunes femmes du même âge.
Si je peux juste ajouter un mot peut-être sur la dernière question et la réponse, et avant de prendre d'autres questions. Il me semble que la question des générations, c'est-à-dire d'une emprise de la culture d'origine qui viendrait à s'amoindrir au fil des générations, ça c'est si on se place en se disant que la culture est explicative. Il me semble que dans une bonne part de l'exposé, ce qui était considéré comme explicatif, c'était la stigmatisation. Or la stigmatisation n'est pas directement indexée à la génération. Autrement dit, si on a une tête d'étranger, il y a des chances, surtout si on se marie entre gens d'origine étrangère, qu'à la génération suivante aussi, on soit victime de cette stigmatisation. Donc,
Oui, d'ailleurs, j'aurais même plus...
Quand je dis des chances, pardon, des risques.
J'aurais même tendance à penser que le phénomène de revendication du principe de virginité serait plutôt en train de se vivifier, d'augmenter. Enfin, c'est une impression assez subjective. Les prochaines enquêtes sur sur la sexualité nous donneront sans doute des indications nous permettant de le mesurer. Mais donc on attend avec impatience. Mais pour l'instant, oui, cette prégnance des discours stigmatisants me laisse penser qu'il y a un renforcement, du coup, de la revendication de cette pratique.
Donc peut-être encore rapidement une ou deux questions.
Auriez-vous eu l'occasion d'interviewer des Algériennes mariées aux Français et des Algériennes mariées aux Françaises ? Et quel type de contraintes elles auraient eu vis-à-vis des parents ?
Oui, bonjour, Sarah Fréclin. Je voulais savoir si vous aviez essentiellement travaillé... Si vous aviez surtout travaillé sur la notion de culture, de groupe social et de tradition, ou si vous aviez aussi pris en compte le facteur religieux, et si éventuellement vous aviez remarqué des différences selon la pratique religieuse de la famille d'origine, des différences dans l'attachement au principe de virginité. Merci.
Virginité. Une dernière question peut-être, ou enfin pardon, deux autres, encore une là.
Oui, donc Suzanne Dufour. Alors déjà une question, remarque, mais sur cette sexualité qui serait non génitale, enfin non pénétrative, est-ce que ça, enfin quel statut elle avait ? Est-ce que c'était une sorte du coup de sous-sexualité, non-sexualité, ou est-ce que ça pouvait être quelque chose qui avait un statut de sexualité à part entière, enfin, comment est-ce qu'elle le considérait, enfin, les filles et les garçons. Et une autre question sur les résistances qui étaient mises en place finalement par ces jeunes femmes qui étaient peut-être les plus, enfin, celles dans la société française en tout cas qui subissent le plus de contraintes, d'oppression, c'est-à-dire qu'elles sont jeunes, ce sont des femmes, elles subissent le racisme aussi. Et donc quelle résistance par rapport à tout ça, vous nous avez parlé de résistance sous forme de discours, c'est-à-dire qu'elles critiquent le modèle occidental, elles critiquent aussi en partie leurs parents et les contraintes qu'ils leur imposent. Donc est-ce que c'est seulement ça ? Est-ce qu'il y en avait certaines qui parlaient ou qui étaient même organisées, alors je ne sais pas du tout, dans des associations de quartier, il y a le groupe Ni Pute Ni Soumise qui est extrêmement médiatisé, est-ce que vous en avez entendu parler ? Enfin voilà, toutes ces sortes de...
Une dernière question, oui, et puis après des réponses...
Courte.
Succincte. Pas courte, mais succincte.
Oui, je m'appelle Oumi Tchongan, je suis à l'EHSS. Je voulais...
Pardon, vous...
oui,
où êtes-vous ?
Ah, oui, là. Je m'appelle Oumi Tchongan, je suis à l'EHSS. Et je voulais juste... c'est pour rebondir aussi sur une question qu'on a posée tout à l'heure, en fait, du coup. Et est-ce que vous avez établi une certaine différence... Il y avait une certaine différence par rapport à l'adhésion au principe de la virginité, par rapport à... Est-ce qu'il y avait des pratiques ou des réflexions différentes si on était influencé plutôt par les parents ou par la religion ou si c'était par choix personnel. Et je voudrais aussi revenir aussi sur ce que M. Bozon vous demandait tout à l'heure sur les préliminaires, sur ce que j'appelle les préliminaires ou l'apprentissage graduel dont parlait Lomon pour reprendre le terme. Est-ce qu'il y avait, vraiment une pratique chez les jeunes, des préliminaires, et est-ce qu'ils ont essayé de réfléchir ça en termes d'ambiguïté ? Parce que je pose cette question parce que je me suis beaucoup intéressée là-dessus, et notamment sur les Africaines qui sont musulmanes en général. Bon, j'ai beaucoup discuté avec elles, et il y a un certain rapprochement que je vois. Parce que en général, c'est plus ou moins dans la même culture religieuse. Il y avait les préliminaires et il y avait aussi la question de je choisis d'être vierge parce que il y a la religion, parce qu'il y a les parents et il y a les préliminaires donc à côté. Est-ce que ça peut résonner en termes d'ambiguïté ? Est-ce que ça peut poser un problème de personnalité ? Est-ce que vous l'avez trouvé dans vos enquêtes ? Et aussi, vous avez parlé de... C'est, pour les femmes, elles avaient des problèmes pour construire leur désir sexuel par elles-mêmes. Vous avez dit ça. Et vous l'avez rapproché par rapport au mariage. Moi, j'aurais tendance à me dire qu'elles ont ce problème-là, surtout pour définir leur corps et pour penser leur sexualité par elles-mêmes. C'est-à-dire certaines, pour revenir aux Africaines musulmanes, avaient des problèmes pour se dire, pour avoir leur vision sexuelle par elles-mêmes. Elles se disaient, est-ce que... comment il va me regarder si je ne suis plus vierge, comment il va concevoir nos rapports si j'accepte certaines choses qu'il me demande. Alors pour moi c'est beaucoup plus cela, le fait de ne pas avoir une propre vision de sa sexualité. Voilà, c'est tout.
Alors est-ce que j'ai interrogé des femmes algériennes mariées avec des Français et inversement? En fait, les personnes que j'ai interrogées avaient entre 18 et 25 ans, donc n'étaient pas encore au stade du mariage, excepté vraiment quelques rares personnes. Donc la réponse est non. Mais néanmoins, quand même, la majorité des filles... m'ont dit que pour leurs parents, il serait difficile d'accepter un conjoint d'origine française, que ce type de mariage serait pour elles plus compliqué à faire accepter par leurs parents qu'un mariage avec un jeune homme d'origine maghrébine. Les raisons étant multiples et bien souvent des questions toutes simples comme simplement la maîtrise de la langue arabe, parfois les parents ne parlant pas très bien français, interviennent dans ce type de choix, le sentiment d'avoir une expérience commune, de savoir ce que c'est que l'histoire de la migration, interviennent dans ce choix, et il y a là quelque chose qui relève de l'homogamie sociale. Hein. Ce n'est pas uniquement le rejet d'un Français dit de souche. C'est aussi une communauté d'expérience qui intervient dans ce type de choix et dans le fait que les parents préfèrent un conjoint qui soit aussi issu de l'immigration. Est-ce que la culture, la tradition ou la religion, qu'est-ce qui intervient le plus entre ces trois éléments dans les pratiques sexuelles? Je serais tentée de dire que la religion n'est pas le facteur déterminant, dans la mesure où en fait les pratiques religieuses de toutes les personnes que j'ai interrogées étaient, globalement, que ce soit les garçons et les filles, toutes et tous m'ont dit être croyantes ou croyants, mais aucun ne pratiquait, si ce n'est faire le ramadan, un petit peu, comme ça, de manière très suivie pour certains et certaines, de manière beaucoup plus aléatoire pour d'autres. Et l'importance de l'éducation religieuse donnée par les parents était également très variable. Si certains parents ont, par exemple, enseigné la manière de prier, la plupart ne l'ont pas fait, et on ne peut pas dire que la religion semblait tout à fait déterminante. En revanche, la notion d'honneur, elle, était importante, et surtout l'attachement aux parents. Ces filles avaient le sentiment de trahir leurs parents en transgressant le principe de virginité, de briser quelque chose de la confiance qui existait entre elles et leurs parents, de faire quelque chose qui allait rompre les liens affectifs existants entre eux. Et ça, quel que soit le degré de pratique. Néanmoins... C'est difficile de... Enfin, en tout cas, ce n'est pas leur propre pratique qui semblait déterminante. D'ailleurs, oui, c'est les résultats de l'enquête ACSJ qui le montraient. Les pratiques et le degré de croyance religieuse des intéressés n'entrent pas en ligne de compte dans le fait de, d'avoir eu un rapport sexuel ou pas. En revanche, le degré de pratique des parents avait un impact. Non, c'est pas ça ?
Non, non, parce qu'on n'a pas le degré de pratique des parents.
Je me souviens plus.
Par
c'était.
Contre, ça ne joue pas pour les filles. Pour, si on prend.
Brigitte Lemont nous oui. précise le.
Je dois dire que là, j'y ai.
Juste trois secondes. Modérateur, n'y voit aucun Merci. Inconvénient. Pour les jeunes filles qui ont été élevées dans l'islam, leur degré de pratique religieuse ne fait pas varier leur âge au premier rapport, et le fait qu'il est tardif. Par contre, et ça c'est intéressant, chez les garçons élevés dans l'islam, comme chez les jeunes élevés catholiques, par exemple, ou même chrétiens, si on y rajoute les musulmans, la pratique religieuse a tendance à freiner l'entrée dans la sexualité. Donc on pourrait dire que des garçons, les jeunes garçons qui pratiquent dans l'islam, rentrent un peu plus tard que ceux qui n'ont pas de pratique religieuse, qu'ils soient d'ailleurs croyants ou non, parce que de toute façon... Ça, c'est ce que montrent toutes les enquêtes. L'importance de la religion, quand on est d'une religion minoritaire à l'intérieur d'un pays donné, est toujours beaucoup plus importante que celle de la religion majoritaire, qui, ayant été baptisée ou non, ne se considère pas comme religieux. La majorité sont des catholiques sociologiques et pas des catholiques de foi. Et le statut de chaque religion est tout à fait fondamental pour comprendre... ces mécanismes-là.
Et oui. Juste pour vous rassurer, le fait d'inclure les musulmans parmi les chrétiens, à mon avis, était un lapsus. Mais on s'est douté. Non, non, c'était juste pour...
Oui, pour compléter, effectivement, du côté des garçons, les seuls qui se sont imposés à eux-mêmes le principe de virginité étaient les garçons qui se sont déclarés comme musulmans, croyants et pratiquants. Et là, c'était vraiment quelque chose de très, très marquant, puisque aucun des garçons ne s'est vu imposer le principe de virginité par ses parents. Donc là, c'était vraiment... Là, on peut dire que la religion... Pour les garçons, rentrer dans le cadre d'un choix personnel et une contestation des normes sexuelles dominantes impliquant une sexualité prémaritale, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les filles. Et pour revenir à l'importance de la religion et aller dans le sens de ce que vient de dire Brigitte, effectivement, la religion dans un groupe minoritaire, c'est beaucoup plus... c'est quelque chose de beaucoup plus important au niveau de la construction des identités et de l'élaboration des normes que pour le groupe majoritaire. Cela dit, à l'intérieur du groupe lui-même, c'est pas forcément quelque chose de très différenciateur dans les pratiques au sein parmi les personnes musulmanes, en tout cas pour les filles. Et la dernière question sur la il y avait encore deux questions, je fais très vite, sur la résistance et les associations, la résistance des filles. Celles que j'ai interrogées n'étaient pas impliquées dans des mouvements associatifs, mais toutes à leur échelle étaient dans une démarche de volontaire pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer de rendre les relations entre garçons et filles plus égalitaires à la fois dans leur quartier et pour contester les inégalités de traitement au sein de l'éducation reçue. Donc vraiment, je dirais qu'aucune n'avait une attitude passive. Et y compris celles qui revendiquaient le principe de virginité, elles étaient elles aussi dans la contestation des inégalités entre les sexes. La question des préliminaires, je dois dire que je n'ai pas très très bien compris quelle était la question exactement sur l'ambiguïté de la personnalité. En tout cas, ces jeunes femmes qui respectaient le principe de virginité et néanmoins avaient une sexualité génitale ne voyaient pas ça comme une contradiction. Au contraire, je pense qu'il y avait chez elles une conception de la sexualité différente de celle qui est la plus largement répandue et qui associe effectivement la sexualité à la pénétration. pour elle, enfin, c'était pas une sous-sexualité, c'était pas une sexualité pour satisfaire uniquement leur partenaire et dans l'attente d'eux. C'était aussi quelque chose de désiré par elle-même et qui renvoie donc à une manière de se donner plaisir et de donner plaisir à l'autre qui est un peu différente et qui fait partie de la sexualité. C'était pas en soi. Enfin, c'était quelque chose d'un peu contradictoire, sans doute, hein, mais elle ne le vivait pas comme une sous-sexualité, certainement pas.
On va, je suis désolé, je pense qu'on va terminer là, parce qu'on a déjà pris du retard par rapport à la table ronde qui va suivre, mais donc sur l'idée que cette sous-sexualité n'est pas une sous-sexualité, mais une sexualité. Et donc, on remercie beaucoup Christelle Hamel.